enseignant, son champ de compétences, c'est la manière dont il travaille dans la classe. D'accord ? C'est pas le trouble, c'est pas le médical, c'est quelqu'un d'autre qui est expert de ça. Celui qui est expert du champ médical, c'est le soignant. Il est expert du patient. D'accord ? Le soignant, expert du patient. L'enseignant, il est expert au niveau de l'élève. Et on a parlé un petit peu de parents d'élèves tout à l'heure aussi. Les parents, ils sont experts de l'enfant. Et ce sont même les meilleurs experts parce qu'ils le connaissent pour la plupart depuis leur naissance. Et donc, ces trois experts vont avoir à travailler ensemble pour la résolution des difficultés les plus complexes. Mais ça veut dire que chacun à sa place est reconnu par les deux autres comme expert de son champ de compétences. Intellectuellement, ça permet aux enseignants de se rassurer déjà, de dire « moi, je ne connais pas grand-chose aux troubles, et peut-être que je n'ai pas forcément à connaître beaucoup plus que ça. Par contre, au niveau pédagogique, au niveau didactique, je sais un certain nombre de choses, je peux apprendre un certain nombre de choses dans le cadre de mon métier, et en tant que professionnel, je peux agir à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, mais pas à tel autre. » D'accord ? Là, ce sera tel autre professionnel à qui on va passer le relais. Cette notion de passage de relais, c'est une autre dimension qui est importante à mettre en œuvre en formation. Cette approche-là, elle peut permettre de réfléchir pour tous les enfants qui ont des difficultés comportementales, qu'elles soient liées à un trouble massif, qu'ils soient psychotiques, c'est ce que disait un petit peu Sébastien Pesse dans sa vidéo tout à l'heure. D'accord ? Ça ne veut pas dire que les enfants n'ont pas de troubles, ça veut dire que moi, en tant qu'enseignant, en tant que conseiller pédagogique, je peux agir sur la dimension didactique et sur la dimension pédagogique de la situation professionnelle, qu'elle soit liée ou non à une maladie, à un symptôme. Du coup, là, je vais vous dire un certain nombre de choses qui sont à la fois qui sont plutôt le résultat de 4 ans de travail auprès des équipes d'enseignants, notamment de classe ordinaire, parce que, en tant que conseiller pédagogique ASH, finalement, ma mission principale, c'était d'accompagner les équipes, non pas des équipes d'enseignants spécialisés, mais les enseignants non spécialisés en classe ordinaire avec des gamins qui font exploser tous les cadres, en gros. Et du coup, ces accompagnements, ils ont pu prendre différentes modalités, mais il y a des grandes lignes de force, des invariants dans ce qu'on peut mettre en place, qui me font peut-être dire qu'il y a des pistes de travail qui sont assez peu exploitées dans les formations et qui relèvent de ce que je vais appeler l'accessibilité pédagogique, notamment, et didactique, les deux champs à chaque fois. D'accord ? L'accessibilité, juste pour clarifier, c'est assez simple comme concept, c'est que la cité soit accessible à, c'est issu notamment de la loi de 2005, c'est que la cité soit accessible à toute personne, quelle qu'elle soit, y compris en situation de handicap. C'est quand vous prenez un tramway, par exemple, dans certaines villes, vous avez des quais qui sont rehaussés, une petite plateforme qui sort de la porte, et quand vous êtes à mobilité réduite, quand vous avez une poussette, quand vous avez du mal à marcher, quand vous êtes cassé la jambe, vous pouvez rentrer dans le tramway sans problème, sans faire appel à qui que ce soit. D'accord ? Si par contre, vous devez prendre un TGV et que vous êtes dans une situation de personne, que vous avez des problèmes, que vous êtes en situation de handicap au niveau de la mobilité, vous devez arriver une demi-heure avant, vous avez une place réservée, il y a quelqu'un qui va venir vous accompagner dans le train, et vous allez voyager dans un espace réservé, mais il va falloir faire un effort supplémentaire par rapport à quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap, d'accord ? J'avais vu même il y a 2 ans sur rue 89 un témoignage de personnes qui prenaient quotidiennement les transports régionaux et qui disaient qu'elles voyageaient, en gros, alors elles pouvaient prendre le train sans problème, mais c'était dans le compartiment à bagages, sous les aisselles des gens. Témoignage lu, vu que forcément la place, le véhicule n'est pas adapté à cette personne. C'est une image qui est assez parlante, celle-ci, d'accord ? Parce que c'est quelque chose qu'on peut vivre, éprouver au quotidien, Et ce principe d'accessibilité, c'est-à-dire que l'accessibilité physique fait que tout un chacun peut se rendre à un endroit sans avoir de démarches particulières, supplémentaires à faire. Tout l'enjeu, c'est de transposer ce concept-là au niveau didactique et pédagogique. D'accord ? C'est-à-dire de comment se dire, comment faire que les situations de classe sont accessibles à l'ensemble des élèves. D'accord ? Quels sont les invariants qui font que un enfant qui va avoir des troubles du comportement, qui va être psychotique, qui va être autiste, qui va être trisomique, qui va être sans étiquette mais qui ne comprend pas bien comment fonctionne l'école, qui va, voilà, vous voyez, en fait, les élèves, quoi, globalement. Comment est-ce qu'on part des besoins de l'élève le plus exclu de la classe ? Comment est-ce qu'on part de ces besoins-là et de se dire, eh ben, ces besoins, finalement, si j'arrive à les mettre en place dans ma classe, dans mon école, ben, ça va profiter à tous les autres. D'accord ? C'est finalement des glissements qui ne sont pas des révolutions pédagogiques, c'est des choses qui sont là depuis très longtemps, mais qu'on pense séparément. C'est-à-dire que dans l'éducation spécialisée, dans l'enseignement spécialisé, pardon, on a des très bons guides sur scolariser un élève autiste, scolariser un élève dyslexique, scolariser un élève dyspraxique, scolariser un élève trisomique, scolariser un élève... Hop. On met des étiquettes, donc on a une approche qui est médicale, d'accord ? Et après, on a des prescriptions pédagogiques. Et puis, pas de chance, quand on met en place ces prescriptions, ça ne marche pas, parce que celui qu'on a en face, ben, il n'est pas tout à fait dans le moule du guide. Et du coup, on est à côté. Et on se dit, ben, finalement, j'ai besoin de plus de formation, j'ai besoin de plus d'eux, parce que moi, l'autisme, j'y connais rien, la trisomie, j'y connais rien, etc. Ce n'est pas complètement faux, hein. On peut avoir besoin de connaître, d'avoir des connaissances sur les mécanismes de fonctionnement, ce que disait Patrick tout à l'heure. Les mécanismes de fonctionnement psychologique, médicaux, etc., ça permet de comprendre un certain nombre de choses, ça permet de comprendre des gestes, ça permet de se dire, bah, quand je me fais frapper par un élève ou hurler dessus par un élève qui a une pathologie, c'est pas... peut-être que finalement, c'est un autre sens, c'est pas moi qui suis visé, d'accord ? Par contre, ça ne permet pas d'agir mieux en tant que professionnel. Et ça, c'est une vraie résistance intellectuelle, c'est-à-dire de se dire... Qu'on travaille par l'angle des besoins des élèves et pas par l'étiquette qu'on leur a accordée, c'est pas si clair que ça dans la tête d'un certain nombre de professionnels, y compris d'enseignants spécialisés. À cette notion de jugement, on se dit qu'elle va nous amener un jugement en retour et que cette notion, cette précaution de ne pas juger l'action de quelqu'un, ben peut-être que c'est intéressant de la transposer en direction des élèves. C'est-à-dire qu'un comportement d'élève, les enseignants, souvent, vont avoir tendance à le juger. En disant, je ne sais pas, un tel, le petit un tel ou la petite un tel, elle est violente. Derrière le jugement, on projette une intention, nous. D'accord ? La personne qui juge projette une intention sur l'acte de quelqu'un d'autre. Et il est absolument impossible de savoir quelle est l'intention de l'autre, adulte ou enfant, par rapport à un acte. D'accord ? Ça veut dire que si on n'est pas sur le jugement, on est sur des éléments factuels. Et les éléments factuels, que ce soit ceux de l'élève, par exemple, l'enfant a donné un coup de pied, ce n'est pas un jugement. L'enfant, il a dit « Ziva, je veux plus hein ». Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. D'accord ? Par contre, on n'a pas projeté d'intention sur le « il est insolent » ou « il est violent », comme je disais tout à l'heure, ou « il ne veut pas finir son travail ». Ça, c'est un certain nombre de petites phrases qui sont des jugements au quotidien. Très concrètement, dans votre classe à vous, ça va être, on parlait de rendre accessible, par exemple, la classe. Il va falloir donner à voir un petit programme. Un programme de la journée. Vous l'avez eu, le programme, vous ? Ça vous a sécurisé un petit peu ? Pour un certain nombre d'entre vous, il y en a qui ne le regardent pas. Mais il y en a qui vont le regarder. Il y en a même qui vont le regarder plusieurs fois par jour, au cours de la formation, pour vérifier si le titre correspond bien à ce qui était marqué. Puis des fois que ça a échangé par magie sur le papier aussi. Ça, c'est un élément de sécurisation qui peut, s'il est travaillé au-delà, dans une classe par exemple, de mathématiques, français, d'une entrée disciplinaire, mais s'il est nourri de pictogrammes qui vont permettre à ceux qui ne savent pas lire encore ou qui ont du mal à lire, de se centrer sur qu'est-ce qu'on a envie que les enfants apprennent. S'il est nourri de repères temporels, la question de l'heure, ça fait rire, mais c'est pas si on a commencé par quoi, cette formation ? Par quand est-ce qu'on va manger, comment on va faire, où ça va se passer. Parce que tout être humain qui est placé dans une situation un petit peu inhabituelle ou qui risque de le questionner a besoin d'être tranquillisé sur un certain nombre de repères fondamentaux. Et les enfants qui sont les plus en décalage, ben ils ont globalement ces mêmes besoins-là. Sauf que les situations que vous gérez en tant qu'être humain relativement équilibré, que vous gérez bien au quotidien, c'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu de programme, à la limite, vous auriez pu quand même assister à cette formation, l'enfant qui est très en décalage, ça va être insupportable pour lui, toutes ces situations de transition. Le « qu'est-ce que je vais faire après ?» Le « combien de temps je vais encore devoir subir, si on est dans le premier degré, cette séance de telle matière ou de telle autre ?» Quand arrive la personne qui vient travailler avec moi, etc. Toutes des questions qui, si elles ne sont pas résolues collectivement, vont faire que les enfants ne vont pas rentrer dans les apprentissages que l'on vise pour eux. D'accord ? Et du coup, l'enjeu, c'est de le contenu, il est assez basique. Hein. C'est tout ce qu'on a pu expérimenter dans l'enseignement spécialisé sous l'angle du trouble, mais inversé. C'est-à-dire que quand on va travailler avec un enseignant qui a un enfant qui a des difficultés comportementales, on va se dire, OK, de quoi il a besoin ? Peut-être qu'il a besoin d'être sécurisé dans le temps, dans l'espace, dans ce que l'on attend de lui, dans la manière dont il va pouvoir le faire. D'accord ? Il a besoin d'être sécurisé sur tout ça, mais peut-être qu'il n'y a pas que lui qui a besoin de ça. Et que son petit voisin d'à côté, ou sa petite voisine, qui n'a pas d'étiquette handicap ou trouble, etc., mais ça ne va pas lui faire de mal aussi, à ce petit voisin ou cette petite voisine, d'avoir ses repères structurés. Ce ne sont que des propositions que je vous fais, mais ça se situe dans quelque chose qui est un petit peu ancien, qui a pu être travaillé par Brunner notamment, sur comment est-ce que l'environnement peut aider l'enfant à apprendre, la personne qui apprend, à progresser. Comment est-ce que les interactions sociales vont aussi lui permettre de progresser. Est-ce qu'on rend explicite les moments où on a le droit de parler en classe, les moments où on n'a pas le droit de parler, les moments où on a le droit de parler fort, les moments où on a le droit de chuchoter. Toutes ces petites dimensions pédagogiques qui sont assez intuitives, la question de qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent, c'est une question fondamentale. Hein. Tous les enseignants, globalement, ils le savent intuitivement. Mais il y a cette espèce de pensée, comme disait, de pensée télépathique qui fait qu'une fois que l'enseignant le sait, ben ça va passer directement dans la tête des élèves qu'il a en face de lui. Et ces besoins, si on rentre par ces besoins de sécurisation, de sécurité, de structuration, et ben on s'aperçoit qu'on fait baisser un certain nombre de... que les enfants, que les élèves vont pouvoir s'engager dans les activités de manière beaucoup plus sécurisée et que ce que disait Sébastien Pesse sur l'enfant qui n'est plus diagnostiqué psychotique, ça on l'observe réellement. D'accord ? Comment est-ce qu'on est cohérent ? Hein ? Moi c'est la deuxième notion que j'aimerais bien que vous reteniez, mais que vous ne retiendrez peut-être pas, puisque ce n'est pas moi qui choisis, c'est la question de comment est-ce qu'on va rendre de la cohérence, rendre le travail cohérent des enseignants d'une école, ou d'une équipe, ou d'un établissement, ou d'une partie d'établissement. La cohérence, ce n'est pas la conformité. La cohérence, c'est savoir que dans la classe de Madame Intel, il ne se passe pas forcément la même chose que dans la classe de Monsieur Intel, parce que les enseignants travaillent aussi avec leur personnalité. Mais que dans une équipe d'école, on sache comment l'autre travaille. On sache comment est-ce qu'il gère cette situation. Quelles sont les règles de vie qui sont mises en place, d'accord ? Quelles sont les manières, quels sont les gestes éducatifs, pour reprendre les termes de Sébastien Pesce, qui sont mis en place dans chacune des classes. Et ils ne sont jamais identiques, jamais. Même dans les écoles qui ont une grosse habitude de travail collectif, si on se met en fond de classe dans chacune des classes de l'école, on va s'apercevoir que quelque chose qui semble faire consensus, finalement, a des déclinaisons individuelles. D'accord ? Et que dans la classe de Madame Attel, effectivement, il y a des petites différences par rapport à la classe de monsieur machin. Et cette cohérence-là, enfin, si la cohérence est trop, n'est pas là, les enfants vont s'engouffrer dans les failles de ces systèmes-là. D'accord ? C'est-à-dire que, oui, mais madame, comme à la maison, hein, c'est des principes, ce que je vous dis, c'est assez basique. Si à la maison, quelqu'un dit oui et l'autre dit non, l'enfant il va aller vers ce qui l'arrange. D'accord ? Encore une fois, c'est quelque chose que je pense dont on ne prend pas assez la mesure dans une école, parce que ça a des vrais impacts sur des générations d'élèves qui vont passer de classe en classe et qui, du coup, vont voir que le collectif d'adultes n'est pas cohérent. Et ça passe par le dire, encore une fois. Quand on travaille avec l'équipe, on dit, là, vous êtes mis d'accord à un certain nombre de choses, est-ce que vous l'avez dit aux élèves ? Est-ce que vous avez dit, oui, là, tous ensemble, on a réfléchi et on s'est mis d'accord sur trois choses, sur trois règles de vie. On s'est mis d'accord sur une phrase à dire quand on a ce type de problème. On s'est mis d'accord sur un geste éducatif au sens large à mettre en place. Et bien, je peux vous dire que quand on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, c'est très très efficace. Et j'ai pour mémoire une des petites filles de cette classe-là qui pouvait, pour vous donner un petit peu une image de ce qu'elle pouvait faire, dans une cage d'escalier, se mettre à voir une sorcière et penser que la sorcière allait lui arracher les entrailles et partir dans un délire complètement fou. Et comme c'était à l'école, elle voulait s'enfuir absolument de cet endroit ignoble. D'accord ? Et donc, elle s'enfuyait réellement. Hein. Il fallait que c'était les gendarmes qui la ramenaient de temps en temps parce qu'elle s'était enfuie de l'école, poursuivie par une sorcière. Donc, c'était justement quelqu'un qui avait, enfin une petite fille qui avait une vraie pathologie mentale à ce moment-là, d'accord, qui avait besoin de soins. Et en fait, le fait de lui dire tout le temps, d'avoir une réponse qui était à peu près tout le temps la même, qu'on avait même écrite, c'est-à-dire on s'était dit, quand elle est comme ça, on va lui dire, moi, je suis obligé, par exemple, de te tenir le bras parce que je ne veux pas que tu fasses mal, parce que c'est mon travail. Et de dire cette phrase-là pendant une semaine à chaque crise. Donc c'était une fois par jour globalement, quand ce n'était pas deux. En fait, la tension, elle baissait toute seule parce qu'on disait ce qu'on faisait et on disait pourquoi on le faisait. C'est pour ça que je vous remercie de cette phrase-là, parce que ça, c'est vraiment le lien entre tout ça. C'est soit en tant que formateur, essayer de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, pour que les enseignants puissent faire la même chose. C'est-à-dire, pourquoi, quel est le sens du geste que je vais faire ? Et si jamais, notamment, c'est une question qui est très forte et qui est légitime chez les enseignants, c'est si je dois justement tenir un élève pour pas qu'il se fasse mal ou pour pas qu'il fasse mal à quelqu'un d'autre. Quelle est ma légitimité pour le tenir ? Dans un grand nombre de situations, quand on doit arriver jusque-là, si on y arrive, le fait de mettre des mots là-dessus, ça va faire que la situation va pouvoir se détendre un petit peu. C'est-à-dire que ça ne va pas monter encore plus. Ça ne veut pas dire que ça va l'empêcher d'arriver. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle aura, cet enfant, une réponse qui est cohérente de la part des éducateurs qui sont en face d'elle, éducateurs au sens large, là, ça va faire baisser son niveau de tension. Et donc, cette petite fille, au bout d'une semaine, elle fait « Mais tu dis toujours la même chose ». Et c'était en plein milieu d'une crise, elle était en train de taper partout, et elle m'avait dit ça, mais tu dis toujours la même chose. Je dis oui, je dis toujours la même chose, c'est parce que c'est mon travail, ça. Et notamment de remettre le travail dans les mots, c'est-à-dire de dire que quand on est enseignant, et que l'on doit empêcher de faire telle chose ou qu'on vous propose de faire quelque chose, ça fait partie de notre travail. Les enfants, y compris les enfants les plus en décalage, sont très sensibles à cette question-là.